Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement.
Nous sommes en guerre.
Madame Vonner, la chloroquine, ça ne se fume pas.
Je suis pas informée de ça.
Nous sommes en guerre.
C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enkystés dans une forme, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin de forme de délire.
Nous sommes en guerre.
Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin.
C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs.
Nous sommes en guerre.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
La chanson, musique de Léo Ferré et paroles de Louis Aragon, l'affiche rouge. Hommage aux résistants FTP Moy, ces résistants étrangers qui tombaient et qui, en tombant, arméniens de partout, ce Missak Manouchian criait mort pour la France. Et nous en parlerons évidemment avec Céline Alonso dans La culture dans tous ses états, de cet immense poète que fut Louis Aragon. Et reste évidemment un très grand écrivain. Et auparavant, nous allons parler effectivement de cette plainte, oui, d'un avocat à Marseille qui porte plainte contre Pfizer. Nous allons parler de tout cela, nous allons parler aussi de M&M's, nous allons parler de la destruction de Paris avec Didier Ricler. Tout cela, tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
4 à 5 milliards de vaccinés dans le monde, 80% des Français déjà vaccinés, à 2 doses et bientôt à 3 doses, on n'y est pas encore. Et puis effectivement, c'est la situation sur le front, puisque nous sommes en guerre, comme dit notre cher président. Mais alors une question qui a été posée, nous allons vous parler ici dans l'émission avec plusieurs députés européens. Les laboratoires sont-ils exemptés de la responsabilité financière en cas d'effets indésirables? Et oui, il y a des effets indésirables. Certains disent qu'ils sont extrêmement minoritaires, d'autres que c'est plus compliqué que cela. Mais en fait, y a-t-il responsabilité des laboratoires? On va en parler tout de suite parce que c'est éminemment important.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Elle, quand elle penche la tête sur le côté, elle capte les ondes 5G. Moi au bord du torticolis, c'est à peine si je capte nostalgie. D'un clin d'œil, elle commande un Uber. Pour moi c'est sûr, elle est Pfizer.
Ah, c'est sûr, elle est Pfizer, comme disent les goguettes. J'espère qu'en prenant sa bière, elle n'aura pas eu d'effet secondaire ou indésirable. On ne sait pas. En attendant, quand même, il se passe évidemment des polémiques un peu partout dans le monde là-dessus. Il faut en parler, nous sommes là pour en parler, non pas pour juger, ce n'est pas notre rôle ni notre compétence, mais pour en parler. Et là, quelque chose de nouveau, une nouveauté, un avocat. Barreau de Marseille, avocat en droit public, maître Éric Lanzarone, dépose une plainte contre Pfizer sur le plan de l'irresponsabilité du laboratoire concernant les effets secondaires. Bonjour maître Lanzarone.
Bonjour André Berkoff.
Bonjour alors.
Merci de me recevoir.
Écoutez, alors expliquez-nous, c'est intéressant, effectivement la polémique bat son plein depuis déjà quelques mois, voire un an, et effectivement nous avions reçu, nous, 2 ou 3 ou même 4 députés européens divers qui nous avaient expliqué que quand ils avaient examiné avec boule de difficulté à Bruxelles les contrats signés entre la Commission européenne et les laboratoires, effectivement l'irresponsabilité, c'est-à-dire que les laboratoires et corrigez-moi si je me trompe, n'était pas responsable de tout effet indésirable, secondaire ou dommage collatéral.
Tout à fait, je confirme cette affirmation et c'est la raison pour laquelle j'ai attaqué la clause d'irresponsabilité du contrat contenu dans le contrat Pfizer devant le tribunal administratif de Paris.
Oui.
Pourquoi ? Parce que j'ai été saisi par une famille dont l'enfant dont l'enfant est devenu aveugle à 90% cinq jours après sa première dose de vaccin. Ouais. Rapport médicaux à l'appui, rapport de pharmacovigilance à l'appui qui pointe, et c'est une donnée fondamentale, qui pointe le lien de causalité entre la cécité de cet enfant âgé de 13 ans, dont la vie
13 ans, est, d'accord, oui.
13 ans, dont la vie s'est transformée en enfer, je vous laisse imaginer, et notamment pour sa famille que j'ai reçue dans un état de détresse et de désarroi total. Mmh. Et donc, pour défendre, si vous voulez, notre client, nous sommes juridiquement, et j'allais dire légitimement, retournés contre le fabricant. Et il se trouve qu'en l'occurrence et en l'espèce, le fabricant n'est autre que le laboratoire Pfizer.
D'accord.
Et bien, par la suite, nous avons été obligés, effectivement, d'aller chercher ce fameux contrat que nous avons trouvé, que j'ai récupéré sur le site officiel de la Commission européenne. Et c'est là où le bât blesse, à ma grande surprise, une clause d'irresponsabilité dédouane le laboratoire Pfizer de tout dommage qui résulterait de sa vaccination et de tout effet indésirable potentiel. Et donc, quand vous lisez cette clause, André Berkoff, je me pose effectivement légitimement la question de savoir, par rapport à mon adolescent, qui va donc indemniser mon adolescent, dont je rappelle qu'il est aujourd'hui aveugle à 90%.
Juste, Maître Lazzaron, juste une question. Est-ce qu'on a établi, parce qu'il y a eu évidemment des effets, c'est dramatique ce que vous dites, et c'est dramatique pour cet enfant, pour cette famille, c'est plus que dramatique, mais est-ce qu'on a établi la corrélation entre l'injection et ce drame et cette cécité ?
Tout à fait. J'allais dire, le dossier est fondamental, puisqu'effectivement, un rapport de pharmacovigilance, un rapport médical de la PHP, puisque c'est un enfant de la région parisienne,
oui.
Différentes expertises, que ce soit le Bichat ou l'hôpital Robert Debré, ont établi un lien de causalité sans contestation aucune entre l'injection de cette première dose et la cécité de l'enfant qui est intervenue cinq jours après. Donc, d'accord. Juridiquement, je n'ai pas de souci, si vous voulez, sur le lien de causalité, puisqu'effectivement, dans d'autres dossiers, on pourrait se poser la question
bien
de
sûr.
Savoir si le laboratoire, voilà, et tous ces dossiers, de toute façon, finissent en expertise. Bon. Là, il se trouve que,
d'accord.
Noir sur blanc, le rapport de pharmacovigilance pointe ce lien de causalité.
Donc, vous êtes retourné vers le rapport, et je, évidemment, on confirme tout ce que vous dites. Je rappelle simplement pour nos auditeurs, non pas pour vous, mais pour nos auditeurs, que le vaccin a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et les preuves supplémentaires concernant ce médicament sont donc attendues. Très bien. Les industriels producteurs de ce vaccin ont été exemptés de leur responsabilité financière en cas d'effet indésirable par l'Union européenne, ce que vous avez dit, et les
tout
médecins prescripteurs ont été exemptés de leur responsabilité en cas d'effet indésirable par le ministère de la Santé et sur demande du Conseil de l'Ordre. Bon, ça, c'est autre chose encore. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez vu le contrat, c'était extrêmement ça, le contrat signé par la Commission européenne avec les laboratoires, c'est très clairement stipulé que, voilà, que, en fait, alors, qui est responsable dans ce cas-là ?
Puisque si je reprends mon cas de détresse de cet enfant qui est devenu aveugle, nous allons nous retourner effectivement contre le producteur du vaccin, la société Pfizer.
D'accord.
Mais, et c'est là où le bât blesse, et c'est là où c'est un drame, c'est que la société Pfizer, au regard de la clause d'irresponsabilité contenue dans le contrat passé entre Pfizer et l'État français,
d'accord.
Eh bien, la société Pfizer va se retourner contre l'État en lui disant « Bonjour, monsieur l'État, moi, je ne suis pas irresponsable et je brandis la clause d'irresponsabilité que vous avez signée, vous, État français, et dans ces conditions, je n'indemniserai pas l'enfant, le jeune enfant aveugle. » Vous comprenez la détresse quand il s'agit d'expliquer à la famille, nous, en tant qu'avocats, de leur dire « Bien, écoutez, madame, je comprends tout à fait votre désarroi. Juridiquement, je vais attaquer Pfizer, lequel va se retourner contre l'État, lequel va prétendre que la clause d'irresponsabilité ne lui est pas opposable. La société Pfizer va répondre la même chose. »
Pardon, pourquoi mais excusez-moi, M. Lazare, non, mais c'est très important. Pourquoi, effectivement, ok, c'est l'État français, pardon, très important. Les contrats sont signés par l'État français ou par la Commission européenne ?
Alors voilà, là, il y a une subtilité du montage contractuel et c'est vrai que j'ai pu lire ici ou là que l'action serait vouée à un échec parce que les contrats auraient été signés simplement par la Commission. Alors, je ne vais pas rentrer dans subtilités des marchés publics qui est ma spécialité, comme vous le savez, André. Mais il s'avère que la Commission européenne a été mandatée par les États membres pour signer ce qu'on appelle un purchase agreement.
Donc, ils ont signé au nom de l'État français. Donc, l'État français.
Au nom de tous les États membres.
Oui, mais alors.
La Commission européenne, effectivement, a été mandatée.
C'est
ça,
on est d'accord.
Au nom et pour le compte des États. Alors, donc, moi, le cas qui m'intéresse, c'est l'État français, effectivement.
On est d'accord. Est-ce que vous ne pouvez pas vous retourner, vous, contre l'État français, Maître Lanzarone, pour votre client ?
C'est la raison pour laquelle il existe un contrat cadre qu'on appelle l'APA, donc le contrat d'approvisionnement provisoire.
Oui.
Et après, chaque État membre contracte directement avec la société Pfizer. Et donc,
d'accord,
vous avez ce premier contrat et vous avez un second contrat entre la France et la société Pfizer. Mais la subtilité du montage contractuel, c'est que la société Pfizer, me semble-t-il, a imposé cette clause d'irresponsabilité dans le contrat cadre originaire avec la Commission européenne, et elle a sûrement exigé que la France signe cette clause d'irresponsabilité sans laquelle la société Pfizer ne se serait jamais engagée à vendre des milliards de doses à l'Europe.
Absolument. Ça a été établi par les députés européens qui ont pu lire le contrat. Et alors, donc Pfizer va vous dire, écoutez, nous, on n'est pas responsables, voyez contrat. Est-ce que vous pouvez vous retourner, vous, Maître Lanzarone, pour suivre ça ? Parce que vous n'êtes pas, je veux dire, vous êtes le premier à faire cela, mais j'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent sont peut-être dans ce cas où on peut-être des gens qu'ils connaissent qui sont dans ce cas. Est-ce que vous pouvez me retourner, par exemple, sur l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, ou autre, ou pas ?
En l'état actuel du droit. Alors là, il y a une autre problématique.
Oui.
Si, alors, ce que je voulais dire, je finis mon raisonnement par rapport au cas de l'enfant dramatique.
D'accord.
On me dit qu'il sera éventuellement indemnisé. Le problème, c'est qu'il sera indemnisé dans combien de temps, Monsieur Berkoff ? Les années de procédure, mon enfant, mon client, jeune ado, il ne peut pas attendre 10 ans. Il est dans un handicap exceptionnel, quoi, j'allais dire, un gros handicap. Sa maison n'est pas adaptée. Il est totalement déscolarisé. Et donc, je suis en train de convaincre les parents de leur dire, ou plutôt de leur dire, vous savez, c'est des années de procédure alors même que leur enfant est devenu aveugle. Alors, à expliquer ça, si vous voulez, à ses parents, qu'il va falloir 3, 4, 5 ans de procédure pour obtenir la moindre indemnisation, ça devient compliqué. Et pour rebondir sur votre question par rapport à l'ONIAM, qui est l'acronyme, c'est-à-dire l'Office d'indemnisation des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, excusez-moi, je me suis renseigné. Il se trouve que l'ONIAM, effectivement, aurait pu être une possibilité pour actionner une indemnisation beaucoup plus rapide, un peu moindre, parce que vous savez que statistiquement, les indemnités versées par l'ONIAM sont grosso modo 20% moins élevées que dans le cadre d'une procédure contentieuse. Ça, c'est le premier point. Mais soyons sérieux. L'ONIAM, j'ai vérifié la loi de finances de septembre 2021.
Oui.
Vous apercevrez dans cette loi de finances qu'aucun crédit n'a été alloué à l'ONIAM. Il faut savoir que l'ONIAM aujourd'hui dispose d'un budget de 15 millions d'euros, qui sont des restes de scandales médicaux comme la Dépakine ou le Mediator.
Oui.
Et donc, l'ONIAM aujourd'hui ne dispose pas
Ah oui, d'un budget.
D'un budget nécessaire. Moi, si vous voulez, dans mon cas de cet enfant dramatique, on peut penser au regard du Code de la santé publique, il y a des préjudices d'établissement, des préjudices de scolarité, que l'indemnité qui pourrait lui être allouée se situe entre 6 et 7 millions d'euros. Donc, vous prenez le budget de l'ONIAM, vous avez vite fait le compte au regard de tous les effets, les préjudices, quoi, les effets secondaires dus à la vaccination, notamment à la troisième dose. Mais fondamentalement, et j'allais dire pour conclure ce raisonnement, André, en tant que citoyen, pour quelle raison nous devrions, vous et moi, la boulangère, le mécanicien du coin, prendre en charge financièrement les effets secondaires du vaccin Pfizer? Ça me paraît absolument pas légal au point de vue juridique, mais moralement, je suis un peu scandalisé d'apprendre après coup qu'il existe cette clause de d'irresponsabilité qui a été consentie par l'État français à la société Pfizer.
Absolument. Et d'ailleurs, à d'autres sociétés aussi, Maître Lanzaron, c'est très important ce que vous me dites. Juste un mot. Qu'est-ce que vous allez faire devant, hélas, enfin, cette impasse qui nous a été imposée, en tout cas qui existe par accord. Il y a une voie alternative ou alors des procédures qui, comme vous le dites, vont prendre des années?
Ah, pas de voie alternative. En réalité, l'assignation de Pfizer va intervenir incessamment sous peu devant le tribunal judiciaire de Paris. Et puis, on attendra de voir quelle est la position de la société Pfizer si elle appelle, dans le cadre de cette procédure, l'État pour dire au juge judiciaire ou pour convaincre le juge judiciaire de ce qu'elle a une clause d'irresponsabilité ou éventuellement, ce que je crois plus probable, c'est que la société Pfizer indemnise éventuellement l'enfant et postérieurement aille taper à la porte de l'État pour dire « Bonjour, monsieur l'État, j'ai une clause d'irresponsabilité, j'ai versé 6-7 millions d'euros à un enfant devenu aveugle, merci de bien vouloir me rembourser. » Mais en tout état de cause, et pour conclure là-dessus, Monsieur Berkoff, je crains que les années de procédure vont avoir raison et que c'est un combat de longue haleine pour rendre justice à cet enfant qui est devenu aveugle à 90% et dont la responsabilité, le lien de causalité
a été avec prouvé.
Pfizer a été médicalement prouvé.
Maître Lanzaron, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un véritable problème. Il a été posé depuis un an et demi et même plus. Effectivement, quand vous achetez une voiture, un réfrigérateur ou autre, s'il y a des défauts de fabrication, eh bien, le fabricant est responsable. Là, on se pose encore la question, pourquoi cette irresponsabilité, cette clause d'irresponsabilité, on le saura un jour, alors qu'il s'agit de quelque chose qu'on vous injecte. Donc, c'est un vrai problème. Voilà.
Pour finir, c'est vrai que vous êtes mieux protégé au regard du droit de la consommation si vous achetez un iPhone ou autre téléphone que lorsque vous êtes vacciné, alors même que la société Pfizer a vendu, ne l'oublions pas, quelques milliards de vaccins à l'Europe et à tous les États membres.
Et ça s'appelle, Maître Lanzaron, la logique du marché.
Et merci beaucoup. Vous êtes avocat en droit public au barreau de Marseille. Et puis dans un instant, on va parler de la disparition de Paris qui, elle, sera très difficile à remplacer ou à indemniser avec Didier Rickner. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Oui, vous avez entendu mon entretien avec Maître Éric Lanzaron, l'avocat en droit public au barreau de Marseille, qui porte plainte contre Pfizer sur le plan de l'irresponsabilité du laboratoire concernant les effets secondaires. On en a parlé, ça a été très précis. Il y a un drame terrible avec un enfant de 13 ans, il y a peut-être d'autres drames. En tout cas, ça mérite d'être suivi. Et je signale que l'Union citoyenne pour la liberté organise ce samedi 29 janvier une marche qui part à 14h du ministère de la Santé, à Paris bien sûr, jusqu'au siège de Montrouge de la société Pfizer. Première manif autorisée devant Pfizer, voilà, c'est samedi. Ils m'ont demandé de le signaler, évidemment, je le fais. Ce samedi, du ministère de la Santé à 14h jusqu'au siège de Pfizer à Montrouge. Et pas étonnant, maintenant nous allons parler bonbons et M&M's. Vous allez voir, c'est pas triste.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables.
Jacques Brel, bien sûr, je vous ai apporté des bonbons. Alors, parmi les bonbons, évidemment, je vous ai apporté des M&M's. Mais des M&M's qui vont être refondus. Et oui, et oui, et oui. Même un M&M's après Disney, après tous les autres, est atteint par la woke et la cancel culture. Ces deux mamelles de la contemporanéité inclusive, exclusive, dérivante et assez imbécile, il faut le dire. Alors, que fait M&M's? Qu'est-ce que ça a à faire avec des bonbons M&M's? Eh bien, on va refaire notre image de marque, disent ces bons vendeurs, afin de créer un monde où chacun sent qu'il a une place. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Eh bien, les mascottes féminines, vous savez, ces fameuses mascottes d'M&M's, seront moins sexualisées. Au lieu de porter des stilettos et des bottes de go-go dancers, elles chausseront désormais des talons bas et une paire de baskets. Eh oui, ça suffit, la sexualité, etc. Eh bien, M&M's dit aussi... M&M's promet d'utiliser le pouvoir de l'amusement, c'est amusant ça, pour inclure tout le monde avec comme objectif l'augmentation du sens de l'appartenance pour 10 millions de personnes autour du monde d'ici 2025. On appelle ça le sens de l'appartenance. En fait, ça veut dire pour 10 millions de nouveaux clients en 2025. C'est beau ça. Oui, mais ça s'appelle appartenance. Faut être quand même... Voilà. Et ça peut, vous savez... Alors, on peut continuer. Vous savez que M&M's, c'est toutes les couleurs. Alors, par exemple, Green, la bonbonne verte, ne sera plus affublé de l'odieux Mrs. Vous savez, il y avait un Mrs. Madame, afin que le public se concentre sur sa personnalité plutôt que sur sexe. Sur sexe, c'est pas beau, ça. Et Green, et Brown, unis pour être une force soutenant les femmes qui brillent au lieu d'être dans l'ombre. Et Orange, va accepter véritablement sa propre anxiété sans être effrayé d'exprimer. Nous savons qu'Orange est le personnage de la bande avec laquelle la génération Z, les jeunes, adolescents, s'identifient le plus d'après nos conversations avec les représentants. Le marketing de la diversité colorée, c'est formidable quand même. Hein. Et voilà. Donc, on va être féministe, on va être effectivement, on va être inclusif. Tout à fait, voilà, ça arrive jusqu'au bonbon, tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est pour ça que je vais vous apporter des bonbons, parce que je suis déconstruit.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde.
Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent, vous savez, de la France entière, du monde entier, qui se baladent dans Paris, est-ce qu'ils peuvent encore chanter cette chanson? Eh bien, ça m'étonnerait. Et quelqu'un l'a fort justement et fort précisément dénoncé dans un livre qui vient de paraître, que je vous conseille, que je vous recommande, « La disparition de Paris ». Oui, carrément. Eh bien, oui, avec une tour Eiffel renversée sur la couverture. C'est paru aux éditions Les Belles Lettres. Et c'est Didier Rickner, fondateur et directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, qui nous en parle. Alors, Didier Rickner, effectivement, en lisant votre livre, on se dit que c'est extraordinaire. On se rappelle d'ailleurs que Hidalgo est là depuis presque 20 ans. Anne Hidalgo, elle est comme première adjointe d'abord sous Bertrand Delanoë, et puis maintenant comme maire à son deuxième mandat. Et qu'elle réinvente. Et qu'elle digitalise, hein, réinvention, digitalisation, les deux mamelles de ce Paris qui n'a jamais été aussi beau, aussi pur, aussi propre, aussi préservé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe vraiment, Didier Rickner?
Ce qui se passe, c'est une... Comme le titre, en fait, au départ, on avait pensé destruction de Paris, ce qui aurait été trop fort, on nous aurait dit, mais non, Paris est toujours là. Évidemment, Paris est toujours là. En revanche, un de mes amis a eu l'idée, finalement, de disparition de Paris. Pourquoi? Parce que Paris s'efface, en fait. Le Paris tel qu'on l'aimait, est en train de disparaître sous des coups de boutoir réguliers, de plus en plus prégnants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On assiste effectivement à ça. Pourquoi on assiste à ça? J'avoue ne pas bien comprendre l'idéologie qu'il y a derrière tout ça. Alors, vous avez parlé effectivement de réinventer. Je pense qu'il y a d'abord une absence de culture. Ils ne savent pas ce qu'est Paris, ils ne connaissent pas l'histoire de Paris. D'ailleurs, il est très drôle de retrouver sur Twitter et sur Internet une parole d'Anne Hidalgo disant « Paris a une histoire, mais je ne sais pas bien pourquoi ». Ce qui est quand même très étonnant de la part de quelqu'un qui est aux commandes de Paris depuis 20 ans. Et un manque de culture, un manque de goût, ça c'est évident, il suffit de sortir. Et puis finalement un désintérêt complet, ils veulent réinventer Paris, ils se prétendent les héritiers de personnes qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire d'Haussmann, Alphand, etc. Mais en fait, ils créent quelque chose qui détruit, qui efface ce qu'on aimait.
Non mais détaillons Didier Reckner, tout le monde peut dire vraiment, y compris si on est un partisan, qu'on a voté un Hidalgo, enfin la saleté de Paris, les rats, les poubelles, le mobilier urbain, on va en parler, les bancs. Alors, commençons quand même, la saleté, vous savez, ces bancs de bois un peu partout, Place de la République, etc. Et puis on va parler, évidemment, les panneaux, les naturinoirs, vous parlez de naturinoirs, avec photos à l'appui dans votre livre, c'est très intéressant parce que c'est appuyé de photos, souvent de vous-même, les chantiers, etc., etc. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est voulu? C'est de la négligence? Vous dites, on ne sait pas pourquoi, effectivement, mais enfin... Tout le monde le voit, ça fait quand même quelques années. Paris est en dette de 10 milliards d'euros. Il y a un monde fou à la mairie de Paris, hein, comme employé. Qu'est-ce qu'ils font?
Alors, il faut d'abord, je crois, effectivement, serrer les problèmes en disant que la propreté, c'est important, mais nos adversaires, c'est-à-dire que la mairie de Paris, ceux qui disent que tout va bien, voudraient réduire nos critiques à la propreté. C'est évidemment pas du tout le cas.
Bien sûr.
La propreté, pourquoi est-ce que c'est sale? Parce que je pense qu'il y a une désorganisation complète, et c'est aussi une des raisons. D'autres problèmes dans Paris, il y a une désorganisation des services de la ville depuis très longtemps. J'ai discuté un peu avec des personnes qui travaillent à la mairie de Paris, qui sont des fonctionnaires de la mairie de Paris, et ils m'expliquent que il y a du savoir-faire qui s'en va. Donc il y a des personnes qui sont recrutées, mais c'est pas forcément les bonnes personnes. Donc je prends l'exemple dans mon livre de la communication qui est pléthorique, alors que les personnes par exemple en charge de la restauration des monuments sont très peu. Donc il y a effectivement une incompétence. Je prends un exemple dans le livre qui me paraît tout à fait typique.
Prenons des exemples, c'est mieux.
L'exemple, c'est quand on construit une rue en Paris, les gens ne le savent peut-être pas, mais quand on fait une rue dans une ville, on s'assure qu'il y ait une déclivité telle que l'eau va jusqu'au caniveau, que l'eau ensuite s'écoule dans les égouts. Et ça, c'est grâce à des géomètres, c'est d'une profession très noble, le géomètre, qui calcule les pentes, etc. Or, il suffit de se promener dans Paris par jour de pluie, des fois maintenant même hors des jours de pluie, parce que l'eau stagne, pour constater que l'eau s'accumule dans les caniveaux, souvent au niveau des passages piétons, donc les gens ne peuvent plus passer, parce que la conséquence aussi de tout ça, c'est que pour circuler dans Paris, ça devient très compliqué, notamment pour les handicapés, pour les familles, etc. Donc l'eau ne s'écoule plus, et encore pire, depuis quelques mois, on s'aperçoit, et je mets une photo qui n'est pas de moi dans ce livre, devant la place de la Trinité, où toute la chaussée est envahie par de l'eau, on a l'impression que c'est inondé. Or, simplement, il a plu. Je prends aussi un autre exemple, qui est près de mon bureau, en face du musée Grévin. Vous avez une énorme flaque d'eau dans le caniveau, et là, qui ne s'évacue pas quand il ne pleut plus. Là, ça fait quelques jours qu'il n'a pas plu, elle est toujours là. Alors là, on m'a dit que c'était parce que ça s'était enfoncé. Que la chaussée s'est enfoncée.
Oui, ah oui, d'accord. Et il ne travaille pas, il y a des géomètres, comme vous dites, il n'y a pas de...
Exactement, et là, la chaussée s'est enfoncée. Rappelez-vous que rue de Trévise, dont on parlera peut-être, où il y a eu une explosion, c'était la mairie a été mise en examen, eh bien, c'était bien un enfoncement de chaussée. Et là, ça fait des mois et des mois que c'est là, et qu'il n'y a pas eu de travaux. Et donc, peut-être que demain, ça va sauter, mais tout le monde s'en fiche, finalement.
Oui, alors, tout le monde s'en fiche, mais... Et le mobilier, parlons du mobilier urbain, quand même. Enfin, cette fameuse... On va régénérer, on va végétaliser. Enfin, quand on va, par exemple, prendre l'exemple Place de la République, c'est hallucinant, ces bancs, etc. Ouais.
Alors, la Place de la République est un exemple typique et qui a commencé avant qu'Anne Hidalgo devienne maire. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... Certains disent, du temps de la Noé, c'était quand même tellement bien. Non, ça avait commencé beaucoup moins dogmatiquement, beaucoup moins idéologiquement, mais il faut se rappeler, effectivement, comme vous l'avez dit, qu'Anne Hidalgo est première adjointe à l'urbanisme, donc très important depuis pratiquement... 19 ans, c'est ça. Eh bien, Place de la République, on a laissé d'abord pourrir la place, il faut le savoir. Moi, je voyais ça venir. Je savais qu'elle allait être faite et j'avais pris des photos. On pouvait plus fréquenter ces squares, ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de squares de Paris, c'est-à-dire que c'était impossible. C'était pas nettoyé, il y avait plein de marginaux qui étaient là, les familles ne pouvaient plus y aller. Ensuite, on a dit, regardez comme c'est sale, donc on va tout refaire. Ils prétendent végétaliser. On pourrait y revenir peut-être, mais c'est l'inverse qui se passe à Paris et Place de la République. Il y avait des squares qui étaient très jolis, qui avaient été faits juste après Haussmann. Hein, c'était un peu plus tardif qu'Haussmann, qui étaient deux beaux squares avec des fontaines. Et on a tout cassé pour faire cette espèce de dalle horrible, complètement minérale, ou qui n'est pas plus nettoyée qu'elle ne l'était avant qu'on détruise la place, et qui fait que cette place est absolument avec du mobilier qui ressemble à rien.
Rien.
Qui est en bois, en bois brut, qui pourrit. À Passaisy en ce moment, c'est dramatique. En plus, ils ont construit ce restaurant très laid qui n'est plus exploité, qui va bientôt être exploité, mais ça n'empêche que tout ça est affreux. Alors, on nous a dit, ah bah oui, mais vous préfériez avant, alors qu'il y avait plein de voitures. Mais moi, je ne suis pas forcément favorable aux voitures partout dans Paris. Simplement, il faut quand même qu'elles circulent. Et là, il était très simple de couper la circulation et de restaurer la place. Et ça aurait été beaucoup moins cher. Et actuellement, on ne dirait plus, la Place de la République est une horreur.
On va en reparler tout de suite après ceci. C'est quand même très préoccupant.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Mais oui, Zaz, on aimerait, mais vous savez, il y a eu le hashtag Saccage Paris, d'ailleurs, Eric Nerf, vous avez souligné que ça a fait du bien, le Saccage Paris.
Beaucoup de bien.
On a regroupé un certain nombre de gens qui étaient tout seuls, etc. Mais je voudrais qu'on continue cette espèce d'inventaire, quand même. Mais hélas, pas à l'après-Vert, il est 10 fois pire. Il y a quelque chose, quand même, de paradoxal. À l'Hidalgo, et même avant, on disait... Paris doit devenir écologiste, hein. C'était les écologistes qui tenaient le haut du pavé, Paris, ville propre, donc nous allons supprimer les voies sur berge, on va désengorger, etc., etc., on a vu le résultat, mais surtout alors, Paris, on va revégétaliser, mais il y avait des parcs dans Paris, il y avait des arbres, etc., qu'est-ce qu'on a fait ?
Alors ça, c'est une des surprises, mauvaises surprises que j'ai eues en préparant ce livre, je ne me doutais pas qu'à ce point, la mairie de Paris, depuis quelques années, faisait disparaître la végétation à Paris, les arbres. Ils prétendent que...
Carrément disparaître.
Oui, disparaître, ouais, carrément, je l'assure. Ouais. Il suffit d'ailleurs d'aller voir un hashtag qui s'appelle « Déforestation urbaine » que j'ai mis sur Twitter. Et là, j'ai pu faire des comparaisons, parce qu'elle a un ennemi, cette mairie. C'est Twitter, bien sûr, mais c'est aussi Google Maps et Google Earth. Ouais. Il suffit d'aller sur Google Earth et de comparer avant, après.
Vous l'avez fait d'ailleurs.
Oui, je l'ai fait, et pas seulement moi, plein de gens le font sur Twitter. Ouais. Et on voit que les arbres, les parcs, des parcs privés, des jardins privés, etc., disparaissent au profit de construction, parce qu'on densifie Paris, alors que Paris est déjà une des villes les plus denses. Je prends un exemple, par exemple, dans mon livre, je mets avant, après, une vue aérienne, grâce à Google Earth, merci Google Earth, du 45 avenue du Maréchal Fayolle.
C'est dans le 16e.
Et où vous aviez un bout de forêt qui était encore là.
Donc, en plein Paris,
à côté du périphérique, mais à l'intérieur de Paris. C'était sans doute un bout du bois de Vincennes qui avait survécu à l'urbanisation et qui a disparu au profit de 4 constructions. Et donc, partout, ça se passe dans les jardins privés. Donc, la promotion immobilière marche à fond dans Paris. Hein, et donc, on enlève des arbres. Et les arbres, même les arbres dans les rues qu'on coupe, on ne les remet pas toujours, alors qu'ils prétendent qu'ils les remettent. Il y a plein d'exemples que je prends aussi dans mon livre. Ils coupent des arbres et on ne les remet pas.
Et alors, racontez, pour venir à Sud Radio ce matin, vous êtes vous
je suis parti, descendu... je suis arrivé à la station du Ranelagh.
Oui.
Et je suis descendu à pied jusqu'à l'avenue Kennedy.
Oui.
Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc... Sans filet, je vais regarder tout ce qui ne va pas, simplement sur ce parcours extrêmement court. Hein, c'est en 10 minutes, on descend ça, enfin 5 minutes.
C'est quelques centaines de mètres.
Voilà, quelques centaines de mètres. Et alors là, j'ai tweeté. Alors j'ai vu, par exemple, un amoncellement de trottinettes, donc qui sont absolument pas gérées à Paris.
Qui sont étalées comme ça sur le trottoir. Ailleurs,
vu un grand classique de la ville de Paris, ce sont ces feux et ces lampadaires et ces réverbères scotchés. C'est-à-dire qu'on ne répare pas, on scotche, on met du scotch. Il y en a partout dans Paris. J'en ai vu là.
Monde, oui, oui.
Voilà. J'ai vu en arrivant juste au coin de la station de RER, j'ai vu un trou avec des barrières autour dont on voit qu'il est ancien puisqu'il y a des poubelles dedans. Et on ne sait pas du tout à quoi ça sert, à quel chantier ça correspond. Et ça reste là. Et ça, j'ai expliqué pourquoi, parce qu'il n'y a plus du tout de coordination dans la ville de Paris. Et ça peut rester là des semaines ou des mois.
On voit comme ça de trous avec des barrières et on ne voit personne.
Parce qu'en fait, je l'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, avant, ils devaient refermer, les prestataires devaient refermer. Maintenant, ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre pour en faire plus. Ils ne veulent pas le faire tout de suite parce que ça coûte trop cher d'en faire un. Donc on attend, on les oublie. ils peuvent rester, mais des semaines ou des mois. Moi, j'ai vu près de chez moi des mois. C'était au coin de la boulevard Charonne, de la rue de Montreuil. Vous aviez un trou avec 4 barrières vertes autour. Dedans, c'était un trou, il n'y avait rien. Et c'est rien passé pendant des mois.
Et
c'est dans tout Paris.
Ouais,
c'est dans tout Paris. Rappelez-vous Vincent Lindon qui expliquait qu'on avait l'impression qu'elle cherchait un trésor dans Paris. C'est très drôle tout ça.
C'est le fromage de Gruyère.
Mais enfin, très drôle, je dis très drôle, mais c'est pas drôle du tout.
C'est,
en fait.
C'est pas drôle du tout, effectivement. Et en fait, c'est ça, mais cette espèce d'accumulation. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose. Tous les Parisiens, les Français, les étrangers, quand ils vont à Montmartre, Place du Tertre, ils allaient chez Plumeau.
Oui.
Il y avait la célèbre glycine. Parlons de cette glycine.
Cette glycine qui a été très importante dans la prise de conscience. Parce que ce qui est très curieux, c'est que ça fait des années que je tweete, que j'écris sur ça. Et j'avais l'impression d'être parfois un peu seul. Alors sur Twitter, je voyais d'autres personnes qui tweetaient, mais il n'y avait pas... Et à un moment donné, il y a eu ce hashtag dont vous parliez, Sac à Paris, qui a été inventé pas par moi. J'aurais bien aimé l'inventer, mais ce n'est pas moi. Qui a regroupé tout ça. Ça a permis de donner une visibilité. Et un des tournants aussi, c'est cette histoire de la glycine. Alors, il faut savoir que cette glycine centenaire a été coupée un matin.
Centenaire, hein ?
Centenaire, c'est ce que disent. Alors, je ne suis pas sûr.
Enfin, disons.
Très ancienne, très grosse, très ancienne. Mmh. A été coupée un matin par des gens de la ville de Paris. Les gens de chez Plumeau n'étaient pas du tout au courant. Et beaucoup de personnes, dont la Fédération nationale environnement qui a tweeté, qui a révélé ça, a dit que cette glycine n'était pas morte. Parce que d'abord, il faut savoir que la glycine, elle peut avoir l'air pas très en forme, mais ça ne veut pas dire qu'elle est morte, ça veut dire qu'elle est dormante. Alors, je ne sais pas, moi, si elle était morte ou pas morte. Parce qu'on ne peut plus la voir, de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que si elle était morte, il a été expliqué par des gens très, très compétents, donc Tanguy Le Dantec sur Twitter, qui est un spécialiste de ça, la Fédération Nationale de l'Environnement, que si elle était morte, il pense, lui, qu'elle était peut-être morte, mais que c'est dû au fait qu'on avait pavé tout autour de la glycine, on l'empêchait de c'est la ville de Paris, par les travaux, qui l'aurait tuée. Mmh. Certains disent qu'elle n'était pas morte. En tout cas, si elle n'était pas morte, il ne fallait pas la couper. On a demandé le diagnostic, il nous envoyait un diagnostic au bout de 2 mois, qui montrait un nom latin pour dire que c'était la glycine. Ben non, c'était le nom latin d'un marronnier. Donc, c'est vous dire, on ne sait pas s'ils l'ont... Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, enfin, si elle était vraiment morte, il ne fallait pas la couper. Il fallait replanter une glycine pour que ça repousse autour, comme l'a confirmé un jardinier très important. Je ne peux pas donner son nom, je ne vais pas non plus le griller, le pauvre. Mais c'est un jardinier qui sait de quoi il parle. Et il fallait planter une nouvelle glycine qui aurait poussé autour de du tronc. Et ça aurait été beaucoup plus... facilement
encore
restaurable.
Un symbole de cette espèce de
nullité,
d'incompétence. De médiocrité, d'incompétence et de laisser aller. Quoi.
Toutes les compétences, la plupart des compétences sont parties, ils s'en fichent, ils ont l'impression d'avoir de savoir tout et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est un vrai chaos.
Alors, comment vous expliquez, quand même, parlons-en, et c'est vrai que ça s'applique à beaucoup d'autres domaines, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, il faut le dire, Eric Nair, une certaine passivité aux résignations des Parisiens? Pourquoi les Parisiens ne réagissent pas?
Alors je pense que oui. Alors
on aime Paris.
Je pense que oui. Alors on dit souvent elle a été élue. Certes, elle est légitime, elle a été élue. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'il y a un problème, que les Parisiens ont beaucoup de mal à s'en débarrasser. Parce que d'abord, il y a ce fait qu'on ne vote pas pour un maire, on vote pour un maire d'arrondissement. On vote pour. En fait, il y a des swinging states, comme on dit aux États-Unis. Le 14e, si on a le 14e, Paris-Centre, ils ont traficoté Paris-Centre.
Les grands électeurs.
Voilà, les grands électeurs, ce qui est comme pas normal pour une ville comme Paris. Deuxièmement, il faut dire que la concurrence n'était quand même pas très 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 bonne, hein, parce que Rachida Tedditi et Agnès Buzyn, les gens me disaient c'est quand même pas, on préférerait mieux. Troisièmement, il y a le Covid quand même, hein, le premier tour, moi je pensais que ça serait annulé, ça n'a pas été annulé, donc ça a quand même joué.
20% les Parisiens ont voté,
et
les Français
puis,
d'ailleurs.
250 millions à peu près, hein, je dis peut-être, c'est peut-être 236 ou 250 millions d'euros par an à toutes les associations, on arrose les copains. En partie, hein, bien sûr, parce qu'il y a des associations qui reçoivent de l'argent, c'est bien. Mais quand on regarde dans le détail, c'est quand même très problématique. Donc, il y a un clientélisme qui se fait. Donc, ça fait que c'est très difficile de s'en débarrasser. Là, je ne sais pas combien elle fera à l'élection présidentielle. Je précise que j'avais commencé mon livre avant l'élection présidentielle. Elle avait dit qu'elle ne serait pas présidente, donc on ne peut pas dire que j'étais opportuniste. Ça tombe bien, je la remercie beaucoup de se maintenir. Ça fait de la publicité pour mon livre. Merci beaucoup, Madame Hidalgo.
Et puis, juste quand même une chose, Eric Nair, on ne va pas parler, mais cette dette d'aujourd'hui qui est près de 10 milliards d'euros.
Ouais, alors 8,
pour
9
Paris.
Milliards,
enfin,
exactement. Plus les loyers capitalisés, vous savez, alors je ne suis pas spécialiste en finance, mais je sais que la ville de Paris se fait payer par les offices HLM en avance les loyers qu'ils vont recevoir, ce qui fait en fait une dette qui est cachée. Donc c'est une dette effectivement très importante, qui est très inquiétante, parce que d'ailleurs, dès l'année prochaine, ils vont réduire les dépenses. Peut-être que ça vaut mieux, remarquez, vu ce qu'ils font de l'argent.
Oui,
ça est assez inquiétant pour l'avenir. En tout cas, ça va laisser une situation très dégradée pour le successeur, dont on espère qu'il viendra vite.
Oui, et on espère que Paris restera Paris quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Et votre livre est un cri du cœur, La disparition de Paris, aux éditions Belles Lettres. Vous êtes également directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. Et dans un instant, André Bercot, vous allez rendre hommage à un ancien résistant, Louis Aragon. On fête le 40e anniversaire de sa mort et vous serez avec Céline Alonso et Guillaume Roubaud-Cachier.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps.
Je voudrais rappeler, ça c'est un disque capital, auditeur du Sud Radio. S'il y a un disque que vous voulez écouter, s'il y a... C'était Micro-Sillon, c'était le temps du Micro-Sillon, c'était le temps des 33 tours. Mais aujourd'hui, écoutez-le sur Spotify, sur Deezer, où vous voulez. Écoutez ce extraordinaire disque de Léo Ferré, qui a fait la musique sur les poèmes de Louis Aragon. Vraiment un chef-d'œuvre absolu, ne le ratez pas. Et puis Aragon, alors certains le critiquent, oui, stalinien, Guépéou et compagnie, d'autres le louangent, mais qui ne peut pas dire qu'Aragon a été un des plus grands écrivains, un des plus grands poètes, et un des plus grands, vraiment, sculpteurs de style du XXe siècle, et au-delà du XXe siècle, bien sûr. Aragon, c'est incontournable. On ne peut pas parler de littérature française sans parler d'Aragon. Cet incroyable génie du style, de la poésie, de l'invention. Juste un mot quand même, je voudrais dire que quand il écrit sur le fou d'Elsa, le Majnoun Elsa, dans l'Espagne arabo-andalouse, il reprend les rythmiques des chansons arabes dans sa poésie. Voilà, grand génie. Alors on va parler de tout cela avec Céline Alonso et avec notre invité, bien sûr. Et surtout, je dirais qu'on va parler, il a été une partie de l'histoire de France, le dadaïsme, le surréalisme, le communisme, le couple, le féminisme, je dirais, parce qu'on va parler, hein, Céline, du féminisme d'Aragon, voilà, c'est lui. Et juste un mot avant de commencer sur Aragon, je voudrais qu'on ait une pensée pour un extraordinaire aussi romancier, dramaturge, moins connu, René de Obaldia, qui vient de mourir à l'âge de 103 ans, et... On a déjeuné avec lui il y a encore quelques mois. Il avait toute sa tête, il était fabuleux. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Centenaire. Céline Aragon.
Dans quelques instants, sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien.
En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. Céline.
Et oui, Aragon. L'étrangère, célèbre poème de Louis Aragon, dont on célèbre cette année bien le 40e anniversaire de la mort. Et pour parler donc de ce génie de la littérature française, eh bien nous avons le plaisir avec André Bercoff de recevoir Guillaume Roubaud-Couachy, qui est donc directeur de la maison Elsa Triolet Aragon, qui est située donc à Saint-Arnoult en Yvelines, près de Paris. C'est un lieu consacré à la mémoire de ce couple légendaire. Alors bonjour à vous, Guillaume. Alors on peut dire que Aragon est l'un des écrivains les plus mystérieux du XXe siècle.
En étant les plus connu, c'est ça qui est drôle.
C'est vrai, sa vie a été un véritable roman. Comment a-t-elle commencé ?
Bien, on ne sait pas très bien, pour tout vous dire, parce que déjà, rien que pour Aragon, il existe trois dates qui pourraient marquer le début. Parce que le premier document officiel qu'on a, c'est un acte de baptême à Neuilly-sur-Seine, daté donc du 3 novembre 1897. Mais cet acte de baptême, il fait référence à une naissance à Madrid, d'un jeune homme qui serait donc né le 1er septembre 1897. Et puis en 1914, le premier document républicain, si je peux dire qu'on est pour marquer le départ d'Aragon, il présente une date de naissance qui est le 3 octobre et un lieu de naissance qui est Paris. Donc on ne sait pas si c'est Neuilly, Paris, Madrid, octobre, novembre, septembre. Voilà, c'est déjà un peu original.
C'était un enfant illégitime.
Et oui, ouais. Alors pourquoi ça, est-ce que c'est tant de mystère ? Parce que des gens ont voulu y mettre un peu de mystère. Et c'est les gens qui ont voulu mettre du mystère, ce sont ses géniteurs. Et en particulier son père. Son père qui est né en 1840 et qui un jour croise le chemin d'une jeune femme qui s'appelle Marguerite Toucas, qui est née 33 ans après lui. Et il se trouve que lui, c'est un notable, si vous voulez, il a été député, sénateur, ambassadeur, préfet de police de Paris, ce qui lui fait des amitiés assez certaines, et ce qui va lui permettre de maquiller en fait la naissance de cet enfant illégitime.
Ah oui, et il exigera en revanche que son fils porte ses initiales.
Alors effectivement, on va inventer l'identité de ce garçon, qui sera donc Louis Aragon, alors que personne ne s'appelle Aragon dans la famille. Mais effectivement, lui, le père s'appelle Louis Andrieux, donc Louis, et L-A-L-A. Et Aragon, on ne sait pas, peut-être parce qu'il a été ambassadeur là-bas, peut-être parce qu'il avait une maîtresse.
En Espagne, peut-être.
En Espagne, Madrid, exactement. Oui. Donc on ne sait pas très bien. Donc on commence par un nom de code, un petit peu, un vœu de piste.
Mais quand Aragon va apprendre, découvrir plutôt la vérité sur cette naissance?
Alors évidemment, ça, c'est le côté un peu vaudevillesque, mais il y a un côté tragique, parce qu'en fait, cette manœuvre qu'on fait pour sauver les apparences, le problème, c'est qu'on ne va pas, ça ne va pas être un jeu pour l'enfant, puisqu'à l'enfant lui-même, on va mentir. À l'enfant lui-même, on va interdire de dire maman, puisque sa mère, on va dire que c'est sa sœur. Et donc lui-même, et son père ne sera pas son père, donc son père, ce sera un parrain, qui sera son tuteur, son oncle sera donc son frère.
Ah, il n'avait pas de papa-maman.
Eh ben non, voilà.
Et oui, parce qu'en fait, il a été élevé par sa grand-mère maternelle, c'est ça.
Alors, en fait, sa grand-mère maternelle sera présentée comme sa mère adoptive. Ouais. Vous voyez, on invente un roman complètement délirant autour de cet enfant. Et on va le lui annoncer seulement lorsqu'il est convoqué pour partir à l'armée, garde de l'Est. On est au printemps 1918.
Et oui, et c'est sa
et
maman.
Il a 20 ans. Il
exactement.
A plus que 20
ans. Donc pendant 20 ans, il vit dans le mensonge. Il soupçonne des choses, mais voilà.
Mais comment ça se passe alors? Comment sa mère lui annonce ce secret?
Eh bien, en fait, c'est simple. C'est son père qui veut quand même que son sang soit reconnu au cas où le jeune homme viendrait à mourir. Et donc, il n'est pas là pour le lui dire, mais il demande à sa mère, Marguerite Toucas-Massillon, de le lui annoncer garde l'Est au moment où il s'en va. Donc, on n'a pas de document, évidemment, qui dit ça, mais on imagine le déchirement de ce jeune conscrit qui s'en va rejoindre le front.
Et oui, c'était en juin 1918. Il a souffert d'être un enfant d'un bâtard, en fait. Ouais.
Je pense qu'il a surtout beaucoup souffert de ce mensonge obligatoire. Et il y a un poème déchirant qu'il écrit au moment où sa mère va décéder, qui s'appelle « Le mot », c'est dans le domaine privé, et qui dit quelque chose comme « Le mot n'a pas touché ses lèvres, le mot n'a pas franchi mes lèvres, le mot n'a pas touché son cœur, est-ce un lait dont la mort nous sèvre, est-ce une drogue, une liqueur, etc. » Et le mot, évidemment, c'est « maman », le mot qu'il n'a jamais pu prononcer. Et ça, c'est vrai que ça reste une fêlure qui va aussi nourrir une révolte vis-à-vis de son père et vis-à-vis du statut social de son père, parce que c'est la grande bourgeoisie.
Eh oui, en tout cas, effectivement, il a souffert de ce statut. Il a aussi souffert de la guerre. Il a notamment été traumatisé, notamment par la Première Guerre mondiale, qui lui a inspiré l'un de ses plus beaux poèmes.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus. Tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille.
Oui, encore, ces chefs-d'œuvre, poème d'Aragon, musique et interprété par Léo Ferré, effectivement, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, la guerre, on va en parler, c'est comme ça et qu'il est devenu dadaïste, surréaliste,
oui,
etc.
Quand il rentre, effectivement, du front en 1918, Aragon est complètement révolté. Guillaume.
Oui, il faut bien voir qu'Aragon, il est médecin auxiliaire, il avait commencé comme breton, d'ailleurs, des études de médecine. Et donc, il est confronté très, très, très directement à ce qu'on va appeler les gueules cassées, là, dont j'ai vu battre le cœur à nu. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà, donc c'est très clair. Donc, évidemment, il y a une révolte énorme vis-à-vis de ceux qui sont à l'origine.
Il faut
de
rappeler
ça.
Qu'il y a eu des millions de morts, enfin, rien qu'en France, quoi.
Bien c'est sûr, énorme. Sans compter les estropiés, etc., les gens qui sont. Donc, effectivement, c'est un traumatisme et une révolte considérable qui a des enjeux politiques, mais qui a aussi des enjeux esthétiques. C'est ce qui l'amène vers Dada, qui a commencé déjà en 1916 à Zurich, avec Tristan Tzara, et c'est ce qui va l'amener à devenir un des cofondateurs du surréalisme avec André Breton et Philippe Soupeau.
Eh oui. Alors, André Breton, effectivement, il l'avait connu en 1918 quand il était étudiant en médecine. On peut dire que cette rencontre a été décisive et capitale pour lui.
Ah oui, ils se sont rencontrés tôt, notamment autour d'un goût très prononcé qui ne les lâchera pas, pour Rimbaud, pour Lautréamont et des grandes figures de la poésie du 19e siècle, mais qui est une poésie à portée de main, vous voyez, qui n'est pas très très ancienne, puisque nous sommes ici dans les années 1910.
En 18, oui, c'est ça.
Voilà. Et donc...
Leur relation a été passionnelle, mais aussi conflictuelle.
Alors, elle est d'abord très, très forte, si je peux dire, puisque c'est ensemble qu'ils vont aller vers le surréalisme. Aragon est un peu le l'homme de main de Breton, qui pose déjà un peu en pape
Breton
du surréalisme.
Breton est le théoricien, enfin,
exactement.
Ouais, c'est ça.
Aragon aussi, mais quand même, c'est Breton qui s'impose comme étant une sorte de pape. Et ensuite, ils vont se brouiller. En fait, c'est un amour très... Enfin, je dis un amour, voilà, j'ai lâché le mot. Il y a une relation qui est un peu ambiguë, tellement Aragon est fasciné par Breton, et il y a une grande considération de Breton pour Aragon. Mais ils vont finalement se fâcher durement. C'est l'évolution d'Aragon qui va s'arracher au surréalisme, notamment en raison de ses de considérations politiques, mais pas seulement. Et en 32, donc c'est la rupture définitive, et ils ne se reverront plus.
Oui, Aragon rejoint le Parti communiste, Breton était très hostile, etc.
Ah oui. Alors le dernier grand texte justement de la période surréaliste d'Aragon, André Bercoff, c'est ce fameux traité du style, un texte pamphlétaire.
Je me permets de dire les premières phrases et les dernières phrases de ce livre. Si vous ne l'avez pas lu, auditeur du Sud Radio, précipitez-vous, c'est un livre de poche, le traité du style, un chef-d'œuvre absolu de ce qu'est la littérature et la langue française. Et quand on dit on ne sait plus ce que c'est, et ben lisez ça, ça date de 1928. Et en 1928, hein, liberté d'expression, écoutez, il commençait comme ça. La première phrase, c'est « faire en français signifie chier ». Exemple, « ne forçons point notre talent, nous ne saurions rien faire avec grâce ». Et la dernière phrase du livre, c'est « il raconte qu'on est obligé, le citoyen, de saluer les soldats », c'était dans 1928, et il dit « eh bien, puisque ces faquins ont force de loi, je le dis ici, dans mon livre, à cette place, que je conchis l'armée française dans sa totalité ».
Ah oui, et on peut dire qu'il conchit aussi les journalistes, non, dans ce livre, André Bercoff.
Ah oui, quand il dit, écoutez, quand vous rencontrez un journaliste, serrez-lui la main, mais après, lavez-vous tout de suite avec de l'alcool, on dirait les gestes barrières. Vous voyez, Aragon a inventé les gestes barrières, déjà, envers certaines catégories de la population.
Et oui, à propos des journalistes, dans ce livre, il dit, il paraîtrait que les journalistes sont des termites qui nichent dans l'oreille de la renommée, ou bien ils seraient des annelés du genre vert du nez, ne se nourrissant que de moutarde et délectation.
Les surréalistes à l'époque avaient évidemment...
Ils ne peuvent s'entendre traiter de salauds sans trépigner et grincer des dents.
Oui, les surréalistes à l'époque avaient évidemment tout ce qui était presse mainstream, déjà on pourrait l'appeler comme ça, et ça se continue, était très très violemment hostile. Hein. C'était comme les situationnistes après, etc., etc.
Alors effectivement, on l'a dit, Aragon rompt assez très vite avec le surréalisme, il s'engage au Parti communiste, mais son adhésion, on ne peut pas dire qu'elle a été d'emblée une histoire de rose, Guillaume.
C'est vrai, d'abord ils adhèrent ensemble avec Breton, ils essayent d'adhérer en 1921, ça ne dure pas, ils sont reçus par quelqu'un qui est un communiste qui est un peu ouvriériste, quoi. Donc il dit qu'est-ce que c'est dandy, parce qu'il faut imaginer ça aussi un peu.
Oui.
Cette dandy-là, on n'en veut pas de chez nous. Et puis ils reviennent, il y a de longues discussions chez les surréalistes, en 25, 26 et début 27, c'est à la guerre du Rif, une guerre coloniale, ça joue un rôle important. Et en 27, ils rejoignent donc le Parti communiste. Breton va pas rester et Aragon va rester durablement. Mais c'est pas simple parce que justement, il va devoir se séparer d'abord de ses mécènes, il va devoir se séparer de ses amis très intime, au plan personnel comme au plan esthétique, les surréalistes, et il va entrer dans une nouvelle phase de sa vie. C'est pas simple. Et puis c'est pas simple non plus d'un point de vue de l'argent, parce que, comment dire, il se retrouve avec de maigres ressources, si je puis dire, pour vivre, et vivre très chichement.
Ah oui.
Et mais il vit quoi ? Il était médecin à l'époque ? Il vit de
Alors,
quoi ?
Commence des études de médecine, il les poursuit, mais à un moment, il dit qu'il arrête. Et quand il arrête, à ce moment-là, parce qu'il ne veut pas faire ça, il ne veut pas être médecin, et quand il arrête, il vivait quand même grâce au subside de ses parents. Et les parents, arrêtent. Il va être tenu un peu, mais les droits d'auteur, les surréalistes, la littérature d'avant-garde, ne valent pas grand-chose. Donc, alors évidemment, il a des amis très célèbres qui lui font des tableaux, mais qui à l'époque ne valent pas grand-chose. Aujourd'hui, il serait riche à millions, mais à l'époque, il les vend pour pas grand-chose. Et puis, il va être soutenu par un mécénat. Une fois que c'est rompu avec ça, ça va être plus difficile. Donc il va faire des petits boulots divers et variés, il sera pigiste à l'Humanité, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Et en fait, il va se retrouver au début des années 1930 à être en quelque sorte le VRP d'Elsa Triolet. On en parlera peut-être un peu plus tard.
Oui, VRP, parce qu'à l'époque, Elsa Triolet, effectivement, qui avait déjà publié des romans en Russie, elle fabrique des colliers et lui les vend donc à son entourage, c'est ça ?
À son entourage, mais surtout à des grandes maisons de couture, Schiaparelli, etc., Molineux, etc. Donc,
Alors c'est dans les années 30, effectivement, donc qu'Aragon s'engage à fond dans la ligne de l'URSS. C'est Elsa Triolet donc qu'il avait introduit dans les milieux culturels soviétiques.
Alors Elsa Triolet, elle est russe, née à Moscou, et il se trouve que son premier amour, on peut dire les choses comme ça, c'est Vladimir Maïakovski, le grand poète, russe.
Mais... Qui était l'amant de sa sœur.
Et évidemment, c'est elle qui commence quelque chose, elle le présente à sa sœur, et c'est la sœur qui le récupère définitivement. Bon, mais néanmoins, elle reste très introduite dans les milieux littéraires russes, et donc elle peut jouer à certains égards un rôle de... intermédiaire avec les milieux soviétiques. Mais bon, Aragon est au parti communiste, et à ce moment-là, le parti communiste a quand même des relations assez étroites avec le monde soviétique.
Et à cette époque, Aragon va publier un certain nombre de poèmes, justement, à la gloire de l'Union soviétique, comme le fameux Front Rouge,
et tout ça. Qui est à l'origine d'ailleurs de problèmes assez considérables, puisqu'il va y avoir des poursuites. Dans Front Rouge, il y a des vers assez célèbres qui sont un peu violents. D'ailleurs, certains parlent de l'Arc de Triomphe, d'ailleurs, ça fait rêve. On peut penser aux Gilets jaunes un peu avant l'heure. On parle aussi
C'est dans Front Rouge où il dit je change la GPU, etc.
Peut-être dans Persécuteur, je crois. J'ai un petit doute, là, vous me prenez de courant. Mais effectivement, il y a beaucoup de textes assez virulents, si je puis dire, qui lui valent d'ailleurs des poursuites.
Oui. Alors en 1939, Aragon part à nouveau sur le front. Et en 1941, donc avec Elsa Triolet, ils vont rentrer donc dans la résistance. Ils seront des résistants très actifs tous les deux.
Alors en fait, quand on parle de littérature et de résistance, on peut se dire que c'est une résistance de salon, mais c'est pas du tout le cas, parce qu'il faut bien mesurer que, rappelez-vous d'Esnos et d'autres, hein, qui pour, par leur trajectoire littéraire vont se retrouver éliminés, vont mourir, leur avant de liaison va être pris, va être tué, donc c'est pas une littérature de salon, et c'est d'autant plus dangereux qu'ils décident, un, de rester en France, Breton s'en va, deux, de rester ensemble alors qu'il y a peut-être un petit risque qu'on les reconnaisse, et trois, il faut rappeler qu'Elsa Triolet, elle est juive de par sa famille. Oui. Donc c'est quand même très très risqué, si je puis dire.
Oui, ils ont vraiment été traqués, ils ont été obligés de changer de plusieurs fois de plan.
Ils ont quitté Paris, ils sont pas restés à Paris.
En fait, au départ.
Dans la Drôme, ils étaient.
Ouais. Ils ont fait Nice, ils ont fait la Drôme, ils ont pas mal bougé, effectivement. Mmh. La région de Lyon aussi, voilà. Ils ont...
Et donc Aragon va mettre sa plume, en quelque sorte, au service de la résistance.
Ah ben complètement, on peut le dire ça. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut résister. Comme militant, mais il veut résister aussi comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme écrivain. Et c'est ce qui va l'amener, au début, quand il n'a pas bien les contacts, à faire ce qu'il appelle de la poésie de contrebande, c'est-à-dire qu'il va écrire et être publié, mais ce sera un peu crypté son message. Par exemple, il a un recueil qui s'appelle Brocéliande, vous voyez, donc ça ne mange pas de pain, a priori, mais en fait, quand vous lisez, vous entendez les échos à un appel national et de révolte contre l'ennemi. Et puis après, quand il sera davantage en lien avec les imprimeries clandestines, il fera de la littérature beaucoup plus explicite. C'est par exemple lui qui va parler d'Auschwitz, le premier en poésie, si vous voulez.
Et les lettres françaises, c'est à cette époque-là.
Le fameux journal culturel de la résistance, effectivement, il y participe, André Berkoff. En tout cas, il écrit à cette période un sublime poème, strophe pour se souvenir, dans lequel il rend un hommage poignant à des résistants étrangers fusillés donc par les Allemands en 1944.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
Et oui, l'affiche rouge chantée par Léo Ferré, André Berkoff, c'est cette affiche placardée par les Allemands au moment de l'exécution des résistants du groupe Manoukian le 21 février 1944 au Mont-Valérien. André.
Oui, un poème absolument magnifique, toujours magnifiquement chanté par Léo Ferré. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces gens qui venaient d'un peu partout, alors on disait l'affiche rouge, c'était regardez ces métèques, ces salauds d'étrangers, etc., ces immigrés ou pas immigrés, et qui criaient, et Aragon l'écrit, et qui criaient mort pour la France, et qui criaient la France en s'abattant. Ça qui est formidable, cette espèce d'amour aussi de ce pays, de la liberté, et cet amour de la liberté, quoi. C'était quelque chose d'extraordinaire, et c'est bien de le rappeler aujourd'hui.
Oui. Aragon restera fidèle au Parti communiste jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, alors envers et contre tout, et avec aussi des illusions, parce que au moment du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, qui dénonce les crimes de Staline, il y a une fêlure assez grande qui se fait. Il va aussi publier en français l'écrivain tchécoslovaque Milan Kundera et le préfacer. Donc il y a des éloignements par rapport à l'Union soviétique. Il va même perdre son journal, Les Lettres françaises, à cause de tout ce qu'il dit contre l'Union soviétique. Mais il restera porteur d'un idéal, d'une volonté, d'une position communiste.
Et juste un mot, c'est très intéressant parce que, oui, quand il y a eu la Tchécoslovaquie, l'invasion de la Tchécoslovaquie, il a dit c'est un Biafra de l'esprit.
Exactement.
Et alors, juste un mot, Céline, et c'est que il y a eu un texte extraordinaire quand a été présenté à Nancy et à Paris le regard du sourd de Bob Wilson, ce fameux recueil qui durait 7 heures. Aragon écrit dans les lettres françaises une page entière en disant Breton, j'ai enfin rencontré le surréalisme en acte, c'est Robert Wilson. Il a écrit une lettre ouverte à André Breton. C'est formidable, c'était vraiment impressionnant, quoi.
André Bercoff et Guillaume Kouachi, Roubaud Kouachi, pardon, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va continuer donc de célébrer le 40e anniversaire de la mort d'Aragon et aussi le couple mythique de la littérature française qu'il a formé avec Elsa Triolet. Alors à tout de suite.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant. Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Elsa, mon amour, ma jeunesse. Oui, le couple mythique, c'est vrai. Premier poème d'un recueil de 21 poèmes d'Aragon, publié en 1942, donc en pleine occupation. Elsa Triolet, qui avait obtenu le prix Goncourt, il faut rappeler, première femme, le 3 juillet 45, pour un recueil de nouvelles intitulé « Le premier accroc coûte 200 francs », en référence à la phrase codée qui avait annoncé le débarquement de Provence. Bah, elle fut, on peut dire, il a eu d'autres amours, bien sûr, mais enfin, elle fut la femme de la vie d'Aragon, hein, Céline.
Ah oui, elle fut le grand amour de Louis Aragon. Effectivement, leur histoire d'amour a duré 42 ans. Mais cette histoire ne fut pas sans orage. Ben, on en parle avec Guillaume Roubaud Kouachi, qui est directeur donc, de la maison Elsa Triolet, dans laquelle le couple a vécu pendant près de 20 ans. Comment s'étaient-ils rencontrés, tous les deux ?
Eh bien, en fait, ils se rencontrent à un moment où ils sont défaits, si je puis dire, tous les deux, sortant de périodes très difficiles, y compris au plan amoureux. Aragon est dévasté après que Nancy Cunard, une Britannique incroyable,
grande héritière des lignes Cunard.
Exactement. Ah,
c'est ça, grande poétesse. Exactement.
Par ailleurs, qui a un rôle important dans la littérature, et notamment par rapport à la littérature américaine. Et donc, la délaissée pour un jazzman, un pianiste.
Et il avait fait une tentative de suicide pour elle à Venise.
Exactement. Ouais. Donc vraiment, c'est pas pour rire, il est vraiment déprimé. Elsa Triolet tient un journal, et c'est pas beaucoup mieux, elle parle aussi de suicide aussi. Donc les deux sont vraiment au fond du trou. Et puis, ils se retrouvent à la coupole, ils se trouvent à la coupole, le 6 novembre 1928, et c'est le début d'une grande histoire d'amour. Il y a un très beau film d'Agnès Varda qui s'appelle Elsa la Rose. Et
un court métrage
dans lequel elle leur fait rejouer la scène dans les années 60. Et lui dit en voix off, et nous ne sommes plus quittés de toute la vie.
Et c'est Elsa Triolet qui a voulu absolument le rencontrer.
Oui, parce qu'il y avait l'idée aussi par rapport à Maïakovski, parce qu'elle, vous avez dit que ses relations avec Maïakovski, mais indépendamment de ça, elle a une immense considération pour le poète, et elle veut aussi se rapprocher des poètes surréalistes, et puis elle a lu par ailleurs Aragon, et elle veut le rencontrer.
Ouais. En fin de compte, leur rencontre, ils se sauvent mutuellement.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que Aragon l'a beaucoup chanté, mais il y a quand même une part profonde de vérité, c'est-à-dire qu'ils étaient deux êtres défaits, et que la rencontre et l'amour vont sauver.
Ouais. Et dans son œuvre, donc
ils
se
sont
roman...
plus jamais quittés.
Non, jusqu'à la mort.
Et dans son œuvre, effectivement, le roman inachevé, Aragon écrit à propos d'Elsa, ma vie commence le jour où je t'ai rencontré. Et toute sa vie, en fait, il lui a écrit des sublimes poèmes comme celui-ci.
Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue. Qui a pris la mienne, qui donc a rendu.
Et oui, poème d'Aragon mis en musique et chanté par Léo Ferré. Ce poème montre à quel point, effectivement, sa rencontre avec Aragon, avec Elsa Triolet, a vraiment redonné un sens à sa vie. Alors, on l'a dit dans la première partie de cette émission, tous les deux, effectivement, sont rentrés dans la résistance en 41. La guerre a été source de conflits dans leur couple.
Oui, parce que il faut bien mesurer qu'il y a un danger grand pour eux à rester en France, d'autant plus que, je vous disais, Elsa Triolet est juive. Et donc, Aragon a peur pour elle. Il veut la protéger. Et donc, lui, il veut résister, il veut être actif. Mais il voudrait qu'Elsa Triolet reste à la maison. Et Elsa, non, c'est hors de question. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il écrit dans Les yeux d'Elsa, un de ses poèmes les plus connus, notamment grâce à Brassens, qui est « Il n'y a pas d'amour heureux ». Aragon raconte plus tard que c'est lié à cette dispute.
On va l'écouter tout de suite sur Sud Radio.
Rien n'est jamais acquis. À l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre
et celle.
Ouais, magnifique poème, vraiment magnifique poème.
Oui, Georges Brassens.
On ne va pas s'apesantir, mais juste, on en parlait.
Oui, est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, y a-t-il eu un amour heureux pour Aragon et Elsa Triolet?
Alors oui, bien sûr. On va pas avoir d'une vision idyllique. C'est un couple comme un normal, si je puis dire, comme un autre. Mais oui, ils vont notamment s'installer en 1951 dans une grande maison qui est la maison donc aujourd'hui maison Elsa Triolet Aragon, mais qui au départ est un moulin qui est installé à Saint-Arnoult-en-Yvelines, qui est un vaste espace et où effectivement ils viennent dès qu'ils peuvent.
Le moulin de Villeneuve.
Exactement, le moulin de Villeneuve à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Et lui, il devient un grand poète national.
Complètement. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Aragon est vraiment complètement assis parce qu'il a eu par le courage et par la force de ses textes. Donc il faut rappeler qu'avec ceux des Lois, ils sont largués par l'aviation britannique, comme de la résistance même, si je puis dire. Donc c'est évidemment celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, c'est La Rose et le Reseda. C'est des poèmes comme ça considérables.
Et il circulait un peu partout. Justement, en samizdat, presque, on peut dire, en France, quoi.
Ah oui, c'est vrai, ils ont été obligés de se réfugier à différents endroits, de se cacher, d'entrer en clandestinité. Ils ont voulu rester officiels le plus longtemps possible, mais après, ils vont dans le sud.
Juste un mot, j'anticipe. Quand elle a eu le Goncourt, il a réagi comment, Aragon?
Ah bah écoutez,
parce que lui quand même écrivain, s'il dit elle a le Goncourt, moi pas. Enfin, je veux dire.
Alors, il avait eu le Renaudot en 36, quand même, déjà, pour les beaux quartiers. Mais... fait pas de connaissance d'une jalousie particulière par rapport à ce prix. Au contraire, il a essayé toute sa vie plutôt de la défendre, de la soutenir.
De la mettre à l'avant.
Surtout qu'effectivement, après le Goncourt, Elsa Triolet, on peut dire qu'elle a été quand même... elle exaspérait, elle irritait, elle ne plaisait plus. Pourquoi, en fait?
C'est vrai que le Goncourt, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le premier Goncourt remis à une femme. Et à certains égards, certains vont dire, oui, bon, on leur donne le droit de vote, et là, bon, il fallait trouver une femme, on a choisi Elsa Triolet. Donc il y a aussi, même dans le Goncourt, on va dire, oui, mais c'est pas un vrai Goncourt.
Parce qu'elle a été du bon côté,
exactement.
Etc.
Voilà. Donc son Goncourt, lui, est un peu contesté, il y a des jalousies un peu classiques, et puis la guerre froide va emporter tout ça, et va évidemment l'installer comme étant l'étrangère qui manigance...
Soviétique,
évidemment, l'avant de Moscou auprès d'Aragon, il y a un peu ça l'idée.
Certains disent qu'elle, en fait, le fait d'avoir été la muse d'Aragon, ça lui a un peu porté malchance, ça a été une malédiction.
C'est certain, parce que et quoi qu'il fasse à son corps défendant, parce qu'il a vraiment voulu défendre l'œuvre d'Elsa Triolet, mais on avait toujours l'impression qu'il défendait l'œuvre de sa femme et non pas l'œuvre d'un écrivain, si vous voulez. C'est ça la difficulté de la position.
Alors, si Elsa effectivement est à la peine, Aragon lui fait feu de tout bois. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, on a parlé des lettres françaises. Il prend la direction donc de cet hebdomadaire culturel du Parti communiste en 1953. Maurice Thorez a joué un rôle important dans sa vie.
Alors c'est vrai qu'Aragon, c'est à certains égards un bébé Thorez. Il adhère au Parti communiste avant que Thorez n'en soit le secrétaire général. Mais c'est vrai que son évolution dans le parti est très liée à celle de Thorez. Au moment du Front populaire déjà, il écrit plus tard un des vers assez connus dans la Vienne française. Il dit « Mon parti m'a rendu les couleurs de la France ». Mais c'est vrai, parce qu'on part de ce que disait tout à l'heure André Bercoff. Je conchis l'armée française dans sa totalité et on arrive au poète de la résistance, le poète de la France.
Communiste qui était patriote.
Exactement.
C'est Thorez,
clairement, à partir du Front populaire. Et ça continuera, il va le défendre, parce que quand il prend la direction des lettres françaises en 1953, Staline meurt. Alors, Aragon appelle son ami Picasso pour qu'il fasse un portrait de Staline pour les lettres françaises. Mais ce portrait ne plaît pas. Picasso fait un Staline un peu jeune, ça va pas. Et donc,
ça correspond pas du tout aux images officielles de Staline.
Et voilà, qui est le patriarche, l'homme génial qui sait tout, etc.
Bon, le petit père des peuples.
Donc ça va pas. Et il y a une cabale qui est lancée contre Picasso et Aragon encore plus. Et c'est Thorez qui, à ce moment-là, est malade. Et quand il revient, qui va mettre un terme net à cette cabale contre Aragon, qui avait été lancée par Le Cœur et d'autres. Voilà, c'est lui qui... Donc il y a vraiment une relation forte entre Aragon et Thorez depuis Front populaire jusqu'à la fin.
Ouais. Et il faut préciser qu'Aragon, à l'époque, avait désavoué Picasso.
Alors, il a dû faire une sorte... Vous voyez, comme il fait parfois, il a dû faire un peu d'autocritique et machin, etc. Bon,
Une question quand même, Guillaume. Est-ce que, en fait, avec le recul maintenant, et puis les polémiques non pas effacées, mais enfin, elles sont lointaines, Est-ce qu'il a eu le sentiment d'avaler des couleuvres quand c'était l'Union soviétique de Staline et vous savez, c'était l'époque de Kravchenko, d'Arthur Kessler, on les traitait d'Hitler-Trotskistes quand vous dénonciez les camps de travail en URSS et puis ça s'est avéré que bon ben c'était vrai et plus que vrai. Est-ce qu'il a eu le sentiment, comme beaucoup d'ailleurs de militants, et encore une fois, il ne s'agit pas de juger mais d'essayer de comprendre, est-ce qu'il a eu le sentiment d'avaler des couleuvres ou presque des boas à des moments ou pas?
Il y a plusieurs moments. Il y a des moments où il y a cru, si je puis dire, où il a vraiment eu des espoirs sincères dans cette affaire. Et puis des moments où il a été informé des choses qui ne se passaient pas comme il l'espérait. Voilà. Ouais, et donc ça crée des ruptures considérables dans sa vie. Il en parle d'ailleurs à plusieurs reprises dans La mise à mort, dans certains poèmes, où il y a des espèces de crises qui vont jusque dans le corps, si je puis dire, où il y a des choses...
Somatisé
à plusieurs reprises, des choses très, très lourdes. Non, il vit ça, c'est pas du tout un petit truc de dandy, il le vit à la première personne. Et donc non, il y a des moments très très difficiles pour lui par rapport à ça. Ça n'empêchera pas, un, qu'il reste communiste, et deux, qu'il se bat jusqu'à la fin, parce que, par exemple, à la fin des années 70, il y a un cinéaste soviétique qui est en plus ou moins en prison, plus ou moins parce qu'il est homosexuel, et donc Aragon, vieux monsieur, se rend jusqu'à Moscou pour essayer de rencontrer Brejnev et pour obtenir la libération de ce cinéaste soviétique. Donc au début, il avale, et après, quand il est plus reconnu comme quelqu'un qui compte, il essaie de se battre par les moyens qui sont les siens qui pour essayer de devenir des choses.
Et oui, et il soutiendra notamment la jeune création française aussi.
Ah, beaucoup,
ça c'est important.
Oui, c'est vrai. Par exemple, il va contribuer fortement à lancer Philippe Solers. Il fait un énorme placard dans les lettres françaises. Il défend Godard. Il lance des poètes, etc. Non,
Je me rappelle aussi dans les lettres françaises de son « Qu'est-ce que l'art, Jean-Luc Godard ?»
Exactement.
Juste un mot là-dessus. On en parlait avec Céline en préparant cette émission. En fait, quelque part, il faut le dire, ça a l'air paradoxal, mais quand... Aragon dit « La femme est l'avenir de l'homme », chanté par Jean Ferrat, etc. Mais juste, c'était quoi son truc par rapport au féminisme? C'était pas le féminisme, je veux dire, quand il met Elsa en avant, etc., c'est par amour pour sa femme, ou c'était en général déjà quelqu'un qui pensait à...
Je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal évolué. Bon, assez vite, par exemple, si on prend les surréalistes au début, il fait plutôt partie des gens qui sont assez tournés vers ces questions assez vite. Mais je pense qu'Elsa Triolet a joué un rôle aussi pour le pousser dans cette direction. C'est vrai, il a des prises de position assez fortes dans ce sens-là. C'est vrai.
Elle le menait quand même un peu, franchement.
C'est une femme forte.
Alors justement, parlons à présent du Aragon des années 70. À la mort d'Elsa, c'est un nouvel Aragon qui naît.
Alors oui, alors là, c'est une surprise pour pas mal de gens, parce que Aragon, c'est Elsa, c'est le couple mythique, et c'est vrai, c'est tellement le couple mythique qu'Elsa Triolet sera la dernière femme de sa vie, au sens fort du terme. Et après, on a un nouvel Aragon qui s'habille en Yves Saint-Laurent, avec lequel il y a une correspondance d'ailleurs intéressante, et qui a une vie sentimentale et sexuelle avec des hommes. Voilà, donc ça surprend.
Il a fait son coming out, là.
Et il assumait complètement son homosexualité.
Oui, complètement. Dans les années 70. Donc, évidemment, ça surprend.
Mais vous savez, je le disais en antenne à Guillaume, moi, je l'ai vu au Palace, vous savez, quand les grandes années du Palace, des années 78, 80, etc., où il venait avec. Il avait sa longue chevelure blanche, comme ça, il était là, et il est très heureux d'un dandy, comme ça.
Et oui, et il a eu cette période un peu fantasque, mystérieuse. Il se cachait derrière des masques.
Ah oui, alors ça, c'est lié à une promesse qu'il fait un peu avant la mort d'Elsa. Il dit mon visage est trop abîmé, c'est un séducteur, un dandy, etc. Et puis, bon, il y a un rapport compliqué, il pense qu'il va mourir aussi. Bon, il dit et à un moment, donc un peu après la mort d'Elsa cette fois-ci, il dit à l'antenne devant, son nom m'échappe, mais ça reviendra après, peu importe. Il lui dit c'est la dernière fois que je viens. J'ai dû noter ça la dernière fois. Voilà, il dit voilà. Je suis seul maintenant, le temps m'est venu d'à jamais m'abstenir. On est le 20 décembre 1970, Elsa est morte en juin. Donc il dit, je ne reparaîtrai plus jamais à la télévision. Et en fait, Van Rista, donc son compagnon, son ami, le poète, va le convaincre de revenir. Et donc il fait une série d'émissions dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelle 10 et non dit, sur Antenne
2,
première partie de soirée, et il vient... pour rester fidèle à sa parole, mais il vient masquer. Ouais. Masquer, on ne voit pas son visage.
Ouais. Est-ce aussi parce qu'il a peut-être mal vécu le fait de vieillir? C'était un bel homme.
Oui, c'est vrai, c'est un très bel homme. Les Atrioles, il est trop beau.
Trop beau pour être vrai, mais si, c'est vrai.
Et donc c'est vrai qu'il y a un rapport complexe évidemment à son visage, notamment à la vieillesse. Elsa Triolet a beaucoup écrit sur la vieillesse, mais Aragon aussi.
Oui, il a beaucoup écrit sur ce visage effectivement qui vieillissait. Guillaume Rouboquachi, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et vous donnerez aux auditeurs de Sud Radio des conseils de lecture pour découvrir, sinon redécouvrir l'œuvre d'Aragon, mais aussi celle d'Elsa Triolet.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Mon sombre amour d'orange amère, ma chanson d'écluse et devant mon quartier d'ombre où vient rêvant mourir la mer.
Voilà, Léo Ferré, Louis Aragon, Léo Ferré. Nous sommes en 2022 et c'est le 40e anniversaire de la mort d'Aragon.
Eh oui, et on en parle avec Guillaume Rouboquachi, qui est donc directeur de la maison Elsa Triolet Aragon, qui se situe dans les Yvelines, près de Paris. Guillaume, pourquoi cet anniversaire est si important ?
En fait, Aragon est sorti un peu du purgatoire dans lequel il était tombé un peu après sa mort. Et maintenant, tout le monde le reconnaît comme un écrivain classique, incontournable, etc. Très bien. Oui, mais Aragon a tellement écrit. Et quand on regarde ce qu'il en reste dans la mémoire commune, je trouve que c'est un peu étroit par rapport à l'océan qui est son œuvre. Et donc, un des objectifs que, modestement, on essaie de nourrir pour cet anniversaire, c'est d'essayer de faire découvrir l'Aragon central, l'Aragon le plus connu déjà, mais aussi d'attirer la curiosité sur les autres Aragons.
Et l'Aragon romancier, on n'en a pas parlé jusqu'ici, le poète est immense, mais le romancier est aussi... Qu'est-ce que vous, justement, que conseillez-vous?
Alors là, en
pour
fait,
les auditeurs de Sud Radio, vous direz, bien sûr, quoi pour vous le plus important, le plus...
Alors Aragon, un romancier énorme, il faut se rappeler qu'une des brouilles avec les surréalistes, c'est aussi à cause du roman. Breton disait, le roman est interdit. Aragon, vous ne pouvez pas l'empêcher d'écrire des romans, c'est pas possible. Et alors, il y a tout le cycle du monde réel, les beaux quartiers qui est magnifique. Bon, sans doute qu'aujourd'hui, le roman qui est souvent dans les tops de la littérature mondiale, souvent, c'est Aurélien. C'est vrai que moi, j'adore Aurélien, qui est un roman exceptionnel qui raconte donc cette histoire d'un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Enfin, il faut vraiment lire ça, Aurélien. Mais si vous voulez, encore plus qu'Aurélien, le roman que je préfère d'Aragon, c'est La Semaine Sainte.
La Semaine Sainte, c'est un le roman historique
magnifique.
Qui se passe autour de Géricault, le peintre, et qui se passe dans les 100 jours, cette période, vous savez, où Napoléon revient, etc.
Ah oui, entre l'île d'Elbe et Sainte-Hélène, quoi.
Exactement.
Enfin, quelque
c'est
sorte.
Oui. Exceptionnel. Moi, La Semaine Sainte, c'est difficile de choisir. Vous me donnez des choses impossibles. Mais Aurélien, évidemment, incontournable. Mais La Semaine Sainte, alors là.
Grandiose. Et pour Elsa, alors?
Alors Elsa, elle a beaucoup écrit,
Triolet.
Moi je sais que celui que je préfère c'est Rosa Crédit. Rosa Crédit c'est un texte, un roman qui est très très fort, très moderne, et qui devine un peu la société de consommation, la place des femmes, tout ça, c'est un texte très fort. Mais après si vous êtes plus d'avant-garde, un peu si je puis dire, formellement, le dernier roman qui est plus difficile, mais qui est très beau, d'Elsa Triolet, qui s'appelle « Le rossignol se tait à l'aube », c'est un texte aussi qui est vraiment très touchant. Elle l'écrit juste avant de mourir à Saint-Arnoult en Yvelines.
Eh oui. Un mot sur l'œuvre majeure d'Aragon, qui est « Le fou d'Elsa ».
Ah oui, alors « Le fou d'Elsa », c'est vraiment partie des œuvres que tout le monde connaît de nom, que tout le monde connaît par les extraits qui ont été mis en musique, mais c'est un massif assez considérable, on en a déjà parlé. On est dans l'Espagne arabo-andalouse de la fin du XVe siècle, et là, il va y avoir toute une réflexion d'un poète français qui connaît mal le monde arabe comme tout le monde en France, hier comme aujourd'hui, et qui va se plonger de très près dans toute la littérature arabo-andalouse et chanter tout cela. Et c'est magnifique.
Et vous savez, c'est un poète arabe qui s'appelait Mroul Kais, qui avait écrit Majnoun Layla, pour son aimé qui s'appelait Layla. Majnoun veut dire fou en arabe, et Aragon, qui apprend ça, enfin, qui a eu connaissance de ça, écrit Le fou d'Elsa, après Layla, Elsa.
Et oui, et Jean Ferrat donc a mis en chanson des vers extraits du recueil de poèmes Le fou d'Elsa. Écoutons-le.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti.
Magnifique.
Magnifique, Jean Ferrat qui chante Aragon. Aujourd'hui, Guillaume Rouboquachi, qu'est-ce qu'il reste d'Aragon? Le politique, le poète, le militant ou l'écrivain, selon vous?
Oh, il reste ce qu'on a envie qu'il reste, si je puis dire. Il y a une réflexion qui est très ample. Il y a le critique d'art, il y a l'écrit. Vous savez, il a beaucoup écrit, il est très proche de Matisse, il a beaucoup écrit sur Matisse, proche de Picasso, de Chagall, il a beaucoup écrit sur tout ça. Donc, il y a ça, il y a le poète, le romancier. Je pense que tout le monde trouve forcément un Aragon qui lui parle et qui lui parle pour lui dire des choses
fortes. À chacun son Aragon.
Oui, je crois.
Alors, qu'est-ce que vous préparez à la maison, justement?
Eh bien, pour marquer cet anniversaire, on a toute une série de programmations toute l'année. On a aussi toute une série de petites pastilles vidéo qu'on va proposer autour d'Aragon sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Et puis, on a un événement un peu central qu'on va organiser le 1er octobre. Mais non, c'est dans longtemps, mais on en parlera si vous voulez. Le 1er octobre, où on veut mélanger, faire entendre des textes lus par des comédiens. On veut solliciter des romanciers qui vont venir parler aujourd'hui de ce que ça leur dit, Aragon.
Ah oui. Faire une et puis la musique. Des journées Aragon.
Dans toute direction. Un peu comme ce qu'on a fait au Petit Palais la semaine dernière. Il y avait la troupe de Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. Il y avait en même temps Eric Orsena. Il y avait en même temps Ariane Ascaride. Enfin voilà. Ce sens-là.
Ouais. Cette maison, Elsa Triolet-Aragon, c'est aussi un lieu de recherche et de création artistique.
Oui, parce qu'il faut bien mesurer que la bibliothèque d'Aragon a été conservée avec tout un univers de dédicaces qui permettent de redire beaucoup de choses. Ça fait près de 30 000 volumes qui sont par exemple présents là. Et puis à la Bibliothèque Nationale, il y a tous les manuscrits et nous on a une partie de la correspondance également. Donc il y a tout un univers pour
les œuvres d'art qu'avait Aragon, certaines y sont encore ou ça a été dispersé.
Il y a une partie importante qui ont été vendues par Aragon lui-même de son vivant, mais il reste de belles choses à la maison Aragon. Il reste des Picasso, il reste des Fernand Léger, il reste Zasinski, il reste beaucoup de choses.
Ouais. Extraordinaire. Cette maison, il l'avait léguée à sa mort, c'est ça, l'éteint.
Exactement, il décide de la léguer à la nation française, c'est sa formule dans les années 70. Pour après sa mort, et c'est ce qui se passe, puisque le legs est accepté au début des années 80, et que la maison a ouvert au public en 1994. Désormais, elle est ouverte tous les jours, à partir du 5 février, là, elle sera ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, donc jusqu'en décembre.
Ils n'avaient pas eu d'enfants, c'est ça, Elsa?
Alors, ils n'ont pas d'enfants, parce qu'Elsa Triolet avait avorté quand elle était jeune, ça l'avait rendue stérile, et c'est une des douleurs dont ils parlent peu dans leur vie, mais qui est là, effectivement, l'absence d'enfants. C'est...
Certains disent qu'ils mériteraient, effectivement, d'entrer au Panthéon. Vous en pensez quoi? Quel est votre avis?
Ah, je sais que c'est soutenu par pas mal d'Aragoniens, et qui disent, en plus, ce serait intéressant de faire rentrer le couple Aragon-Elsa Triolet. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est Elsa Triolet qui a dit, et tant de fois dit, qu'elle voulait être enterrée là, dans ce petit coin de terre de France où elle ne se sentait pas une étrangère, où elle était chez elle, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, puisqu'ils sont enterrés dans le parc de la maison.
Ah oui,
mais respectons la volonté des morts. Hein. Et surtout, mais je crois qu'il y a quelque chose, peut-être, qui, vraiment, si on pense au José d'Aragon, c'est vrai que, pour ceux qui ne le connaissent pas, soit c'est le stalinien, salaud, collabo-bolchevique, je veux dire, etc. Et donc, il dit, c'est pas possible, il a avalisé les crimes de Staline. On pourrait lui répondre, n'est-ce pas, que Sartre aussi a été très, très, tout anticommuniste est un chien, et le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Après, chacun, et Guillaume, vous aussi, vous avez chacun ses convictions, et c'est très bien. Mais j'ai l'impression que cette période politique, dis-moi si c'est, je crois, a un peu estompé à un moment donné ou caché son œuvre littéraire. Et ça, c'est dommage. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut penser, c'est un immense écrivain, un immense poète, et c'est ça qui compte.
Oui, je crois qu'en plus, on est en train de dépasser ce moment parce que la force de l'écriture l'emporte, si vous voulez, quoi qu'on puisse en penser. Voilà, et donc, Aragon... qu'on soit communiste ou qu'on ne le soit pas communiste, c'est un très grand écrivain. Mauriac est un très grand écrivain, voilà, c'est comme ça. Crois qu'aujourd'hui, on est obligé de lire, et quand on lit, on est obligé d'applaudir.
Ah ben un ça. Peu quand même. On dit olé. Et je rappellerai simplement la dernière strophe qu'a supprimée Brassens, et pas plus que de toi, l'amour de la patrie, il n'y a d'amour qui ne vive de pleurs, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux. Magnifique conclusion.
Ah oui, autre livre que l'on pourrait recommander aux auditeurs de Sud Radio, c'est Le Paysan de Paris.
Ah oui, bien sûr. Alors là, c'est un des sommets du surréalisme tout court, et c'est de l'œuvre d'Aragon. Et alors là, il faut lire ça pour découvrir le collage, l'inventivité, l'imaginaire, c'est exceptionnel.
Ah oui, et La Grande Gaieté, le musée Grévin.
C'est sûr, des registres très différents, effectivement.
Bien sûr.
Mais effectivement, La Grande Gaieté, c'est un poème, un recueil moins bien connu, mais il y a la fin. Aller à la fin directement,
pessimiste. Lisez.
Poème à crier dans les ruines, c'est après sa rupture avec Nancy Cunard. Magnifique. Si vous n'avez pas les yeux mouillés, vous n'avez pas de cœur.
Il dit à cracher dans les ruines aussi, non ?
Oui,
c'est
pardon,
pas ça ?
Excusez-moi.
C'est oui. Ça. Guillaume Roubaud-Kouachi, merci d'être venu sur Sud Radio. En tout cas, chers auditeurs, pour en savoir plus sur Aragon, vous recommande de lire le livre de Guillaume Roubaud-Kouachi qui s'intitule « Les lettres françaises, 50 ans d'aventure culturelle ». Ce livre est paru donc chez Hermann. Tout de suite sur Sud Radio, eh bien, vous retrouvez Brigitte Lahaye, notre corps. Parle, et oui, il parle. Alors comment décoder donc le langage de notre corps ? Réponse dans un instant avec Philippe Turchet qui est spécialiste des sciences du langage.
Et je voudrais ajouter que lundi, dans Berkov, dans tous ses états, nous recevons le journaliste et polémiste Yvan Rioufol.